Bonjour à tous. Quel que soit votre âge aujourd'hui, je pense que vous avez sûrement dû entendre ces phrases ou peut-être que vous les avez sûrement déjà prononcées à un moment de votre vie. Je vais faire des imitations, mais c'est pas très beau. Hein. T'es plus ma maman. T'es plus mon papa. T'es plus mon copain. Alors ça, c'est plutôt vers le début de notre vie de petit garçon ou de petite fille. Peut-être que vous l'entendez chez vos enfants, chez vos petits-enfants. Et plus tard, vers l'âge ingrat, qu'on appelle ingrat de l'adolescence, l'adolescence boutonneuse, on a plutôt dit des phrases en onomatopée, ou peut-être en bruit, comme « Oh là là !»« Oh là 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 !» T'es relou. Ensuite viennent les années d'adulte, des années remplies de responsabilités, remplies de problèmes, des problèmes parfois insolubles, des relations humaines peut-être compliquées, où on dit plutôt ces phrases « J'en ai marre de toi, tu me déçois, ça marche plus entre nous, je veux plus te voir, j'en peux plus de ces gens. Je démissionne de ce boulot. » Ensuite, vers l'âge de la sagesse avancée, où les forces peut-être diminuent, où les relations humaines, peut-être à défaut d'être compliquées, vont peut-être même disparaître, on en vient à dire, ou peut-être à entendre, « Je suis fatigué. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. » Et pour terminer, avec une phrase que j'ai entendue d'une dame qui, subissant des douleurs chroniques et de la fatigue constante, a dit un jour « Vivement, vivement le corps glorifié, on en a marre de ces douleurs. » Ce sont des phrases légitimes. Alors ce sont des phrases que l'on dit à tout âge, et ce sont des phrases qui traduisent souvent notre déception, qui traduisent notre découragement, qui traduisent notre envie de tout abandonner, de tout lâcher. Peut-être à cause d'une situation qui nous a échappé, peut-être à cause de notre entourage, peut-être aussi à cause de notre famille, parfois, ou tout simplement à cause de nous-mêmes. On est déçu de soi, on est découragé par soi-même. On a comme un besoin de faire ce petit pas de côté pour ne plus avoir à subir une situation, pour ne plus avoir à supporter l'insupportable à nos yeux et tout simplement peut-être pour souffler un coup. Alors la semaine dernière, nous avions vu une histoire de déception, de grande déception, la déception de Dieu. Alors Dieu ne râle pas comme nous on râle. Mais nous avons vu donc ces Israélites qui étaient impatients et qui ne voyaient pas Moïse revenir du mont Sinaï. Ils se sont fait un dieu, ils se sont fait une idole sous la forme d'un veau d'or. Un veau qui était fait avec les bijoux qu'ils avaient sur eux. Ce peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte, qui l'a conduit à travers le désert, qui l'a fait traverser la mer rouge, qui l'a donné à manger, qui l'a donné à boire, ce peuple, il s'est détourné de lui. Ce peuple l'a trahi, tout simplement. Non seulement il l'a trahi, mais il l'a remplacé. Moïse est ensuite descendu du mont avec les tables de la loi. Et sur ces tables de la loi, sur ces commandements, les premiers disent « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Donc nous l'avions vu dans l'épisode précédent, en voyant le peuple adorer le veau d'or, Moïse va tout simplement briser les tablettes. Il va briser les tablettes et Dieu, il va vouloir exterminer le peuple. Il veut anéantir les Israélites. Moïse va ensuite supplier Dieu de ne pas le faire. Dieu ne le fera pas, mais par contre, le sang va couler, puisque environ 3000 hommes vont mourir. Et ce sont des hommes qui ne se sont pas ralliés à Moïse, et donc qui ne se sont pas non plus ralliés à Dieu. Et nous arrivons donc maintenant sur ces deux chapitres, les chapitres 33 et 34, qui vont voir en quelque sorte un changement de situation, une sorte de renouveau, une restauration. Alors nous allons voir dans un premier temps Dieu qui ne va plus vouloir demeurer parmi le peuple, et nous verrons ensuite le rôle de médiateur de Moïse, et nous verrons enfin la restauration de la relation et l'alliance qui est conclue entre Dieu et son peuple. Alors, dans le chapitre 33, comme un peu plus tôt dans le chapitre 32, il va commencer par une parole un peu étrange que Dieu va dire à Moïse. Dieu, il va dire, « Vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. » Alors si on remonte un peu au début de notre livre de l'Exode, si vous remémorez un peu les premiers chapitres de ce livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 7, on peut lire « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Plus tard, au chapitre 5, au verset 1, il va dire « Laisse partir mon peuple. » Ensuite, des chapitres 7 à 10, il va dire à plusieurs reprises à travers Moïse « laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Alors, vous savez, lorsque vous voyez des parents qui font face aux bêtises de leurs enfants, ils disent des phrases de ce genre. « Ton fils a encore séché les cours. » Ou alors « Ta fille a eu 2 heures de colle. » L'être humain se désolidarise parce qu'il ne veut être responsable ni des causes, ni des conséquences. En fait, il préfère faire un transfert sur l'autre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui parce que si on revient au début de la Bible, dans la Genèse, dans le récit de la chute, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a demandé des comptes à Adam, il a dit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. » Et lorsqu'il a demandé des comptes à Ève, elle dira « Le serpent m'a trompé, j'en ai mangé. » En fait, on fuit les responsabilités. On n'en veut pas. On ne veut pas faire face à tout ça. Alors sans vouloir comparer au-delà du raisonnable, Dieu est en quelque sorte ici en train de se désolidariser du peuple d'Israël. Mais par contre, contrairement à Adam et Ève, et contrairement à nous, il ne le fait pas pour fuir ses responsabilités. Il le fait parce qu'il a été profondément, profondément offensé. Il a été offensé par le péché du peuple. Oui, parce que Dieu est saint, il ne tolère pas le péché. Il aurait pu tout à fait exterminer Adam et Ève, comme il aurait pu tout à fait exterminer les Israélites. Et en fait, ça serait que justice, de toute façon. Mais il va choisir de faire grâce et il va juste prendre de la distance. Il peut aussi prendre de la distance parce qu'il sait que sa colère pourrait anéantir le peuple. Alors en lisant ces premiers versets, il y a quelque chose qui frappe. Dieu, il est offensé. Il est en colère. Il est blessé. Il est blessé parce qu'il est juste. Par contre, il continue à prendre soin du peuple en leur promettant un ange qui marchera devant le peuple, un ange qui chassera les ennemis, et il promet aussi un pays ruisselant de lait et de miel. On voit ici en fait le caractère de Dieu qu'il dévoilera lui-même plus tard dans le chapitre suivant. Il dira « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté. » Et à travers ce récit, mais aussi d'autres récits dans la Bible, puis ultimement à travers l'histoire de l'Évangile, la venue de Jésus-Christ, à travers l'histoire de la venue de Jésus-Christ, Dieu va démontrer que ce verset qu'il a dit en Exode 34, que ce verset n'est pas juste une parole en l'air. C'est une vérité que vont expérimenter beaucoup de personnes dans la Bible et que nous continuons d'expérimenter aujourd'hui. L'Éternel est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de compassion. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Mais tout de même, Dieu va mettre une distance entre lui et le peuple. Alors qu'il avait décrit en détail comment il fallait construire le tabernacle, souvenez-vous au chapitre 25, si vous en souvenez pas, je fais une petite pub, c'est sur le site internet, et vous pourrez l'écouter, c'est Michael qui a fait le message. Dans le chapitre 25 d'Exode, Dieu décrit en détail la construction du tabernacle. Et ce tabernacle, en fait, il devait permettre à Dieu de descendre parmi son peuple et de demeurer au milieu. Et à cause de cet épisode du veau d'or, ce projet de construction va être un peu mis en pause. Et en fait, une tente va être construite, mais cette fois-ci, Moïse la construira en dehors du camp. Cette tente va servir de lieu de rencontre entre Moïse et Dieu, non plus au milieu du camp, mais à l'extérieur. On voit donc ici que la relation semble être rompue, au moins rompue temporairement, entre Dieu et le peuple d'Israël, et entre ce Dieu saint et ce peuple d'Israël rebelle, il y a au milieu un homme, il y a Moïse. Moïse qui va se poser en tant que médiateur entre Dieu et les hommes. À la fin du chapitre 32, Moïse va supplier Dieu de ne pas exterminer le peuple. Dieu l'a écouté. Au début du chapitre 33, Moïse va prier Dieu d'accompagner le peuple et de non seulement, et pas seulement l'accompagner lui. On le voit au verset 16 du chapitre 33. Comme Moïse avait intercédé pour le peuple auprès de Dieu pour éviter son extermination, il va de nouveau intercéder pour le peuple auprès de Dieu pour que Dieu accompagne le peuple dans sa marche vers la terre promise. Alors si on fait un saut de quelques siècles après notre récit et qu'on voit dans les évangiles cette question que les disciples vont poser à Jésus, ils vont dire, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? On voit ici un sacré contraste entre l'ego des disciples, qui eux voulaient se savoir grands, et l'humilité de Moïse, qui a mis la gloire de Dieu en premier et qui lui va intercéder pour le peuple. En fait, Moïse, lui, il avait déjà la faveur de Dieu. La faveur de Dieu lui est acquise. Il aurait pu se vanter d'être le plus grand, mais au lieu de ça, il a voulu intercéder pour le peuple et il voulait que Dieu reconsidère les Israélites comme son peuple et qu'il marche lui-même au milieu d'eux et soit avec eux jusqu'au bout. Alors pourquoi ? Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement pour que les nations qui vont voir ce peuple, que ces nations sachent que ce peuple a obtenu la faveur de Dieu et pour que la gloire de Dieu resplendisse à travers ce peuple. Depuis le début, on sait que Dieu a promis une terre aux Israélites, mais une terre promise sans celui qui l'a promis, ce serait totalement vide de sens. Et que va faire Dieu? Au verset 17 du chapitre 33. Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Parce que tu jouis de la faveur que je t'ai choisie et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. » Dieu l'a écouté. Et là, Dieu va accompagner le peuple et il va conclure une alliance avec ce peuple. Alors cette alliance sera caractérisée pour la première fois par des contraintes, entre guillemets. Alors ce sont plutôt des exigences que Dieu va énumérer dans le chapitre 34. À partir de ce moment-là, on va voir une restauration et une instauration d'une alliance. Dieu va conclure une alliance avec le peuple et avec Moïse. Il va en quelque sorte signer un contrat avec ce peuple. Alors, avec les termes juridiques actuels, il signerait un contrat qu'on appelle synallagmatique. C'est un mot compliqué qui veut juste dire que c'est un contrat qui engage deux parties. Toutefois, il y a quand même cette limite que Dieu fait sa seule volonté et il ne pourrait être attaché par une contrainte que le peuple lui imposerait. Alors pour démontrer ça, il y a une chose marquante dans les premiers versets du chapitre 34. Et cette chose, c'est que les nouvelles tablettes qui vont être faites, puisque les premières ont été brisées par Moïse, nous lisons au chapitre, nous avons lu dans le chapitre 31 que l'Éternel remit à Moïse les deux tablettes de l'acte de l'Alliance. On saute au chapitre 34 qui nous dit « L'Éternel dit à Moïse, taille toi-même deux tablettes de pierre semblables aux premières. » Les premières tablettes ont été données par Dieu à Moïse. Les deux autres tablettes, les deux nouvelles, vont être taillées par Moïse. Alors pourquoi est-ce que Dieu ne va plus remettre directement les tablettes cette fois-ci? Est-ce qu'il aurait oublié comment faire? Est-ce qu'il n'aurait plus envie de le faire, quelque part? Alors, en lisant la suite du texte et en se souvenant de ce qui s'est produit dans le chapitre précédent, on pourrait plutôt dire que Dieu veut maintenant, d'une part, responsabiliser Moïse. Alors, pour rappel, c'est lui qui a brisé les premières tablettes. Et d'autre part, il veut maintenant rendre le peuple participant dans cette alliance. Et cela va se voir aussi à travers toutes les lois, toutes les recommandations et toutes les exigences qu'il va donner. Le peuple, à partir de maintenant, ne va plus se contenter de faire confiance à Dieu. Il devra montrer son engagement par son attitude, et aussi à travers différents rituels qui seront mis en place. Dieu va dire maintenant, à partir du verset 10 du chapitre 34, « Je vais conclure une alliance avec vous. » Il est passé du début du chapitre 33 à « Pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte » à « Je vais conclure une alliance avec vous. » Il y a une certaine restauration, une restauration des liens qui se met en place. Dieu n'a pas anéanti son peuple. Il va plus loin, il leur pardonne et il va conclure une alliance avec eux. Waouh! L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Mais il va rappeler au peuple qu'il est un Dieu jaloux. En fait, l'épisode du veau d'or est passé par là et Dieu va exiger une exclusivité et une consécration totale à travers les prémices des récoltes, à travers les premiers-nés qui lui sont consacrés, et ce n'est que justice. Alors, en quoi ça nous touche aujourd'hui ? Alors, pour conclure, je vais vous proposer quelques applications. Comme nous l'a dit Michael la semaine dernière, nous pouvons tous avoir nos veaux d'or dans nos vies, nos idoles. Les idoles qui peuvent même changer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des épisodes de nos vies. Ce sont des choses qui, même si elles peuvent paraître bonnes en soi, prennent petit à petit la place de Dieu dans nos vies. Sachons, mes amis, que Dieu mérite la première place dans nos vies et que l'idolâtrie le blesse. Il ne tolère aucun rival. C'est un rappel. Autre chose, comme Moïse, sachons prier pour que Dieu nous fasse reconnaître chaque jour que sa présence est de loin la meilleure. Dieu a voulu la présence, Moïse a voulu la présence de Dieu dans sa marche avec lui, mais aussi et surtout avec le peuple. Moïse a conversé avec Dieu, il a prié Dieu, il a supplié Dieu. Il a été entendu. Sachons que la prière, lorsqu'elle recherche la gloire de Dieu et lorsqu'elle recherche notre sanctification, c'est une prière qui est selon la volonté de Dieu. Et la prière selon la volonté de Dieu a été efficace pour Moïse. Elle l'est aussi efficace aujourd'hui pour nous en 2026. Par contre, ça n'enlève rien du tout à la souveraineté de Dieu. Le verset 19 du chapitre 33 nous dit, c'est Dieu qui parle, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Et ça fait écho au psaume 115 qui dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Notre prière est efficace, mais Dieu est souverain et il fera ce qu'il veut. Ensuite, rappelons-nous que, comme les Israélites ont eu leur médiateur, Moïse, nous avons aussi notre parfait médiateur, Jésus, qui lui aussi a plaidé pour nous. Moïse a plaidé pour son peuple, Jésus a plaidé pour nous, Jésus s'est sacrifié pour nous. La réconciliation a été possible par la grâce de Dieu et par le moyen de Jésus-Christ. Et cette réconciliation dont nous sommes encore au bénéfice aujourd'hui, nous nous devons de la proclamer. Nous voyons quelques versets dans 2 Corinthiens qui nous disent « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Soyons aussi les vecteurs de cette réconciliation auprès de ceux qui nous entourent. Si dans notre vie nous nous sentons loin de Dieu, retournons à lui tant qu'il est encore temps. Mais pour cela, il nous faut nous dépouiller de tout ce qui fait notre ego et qui nous éloigne de Dieu. Les Israélites se sont dépouillés de leurs objets de valeur et ils ont suivi Dieu. Il nous faut nous dépouiller de tout ce qui est contraire à sa volonté, de tout ce qui ne l'honore pas, de tout ce qui le blesse. Ensuite, sachons aussi que suivre Dieu, c'est pas seulement profiter de ses bénédictions sans vouloir sa présence. C'est d'abord se satisfaire de sa présence seule pour pouvoir apprécier ensuite ses bénédictions à leur juste valeur. Enfin, Dieu n'était pas au bout de ses peines avec son peuple et l'histoire du peuple d'Israël va nous le montrer. Il va encore, à plusieurs reprises, subir d'autres trahisons, il va subir d'autres désobéissances, et malheureusement, il n'est pas non plus au bout de ses peines avec des personnes comme toi, avec des personnes comme moi. Et pourtant, il le dit lui-même dans ce chapitre 34, L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième et même à la quatrième génération. L'Éternel est lent à la colère, il est riche en bonté, il conserve son amour jusqu'à la millième génération. Mais par contre, pour ceux qui persistent, il ne tiendra pas pour innocent le coupable, ceux qui persistent dans leur péché. Enfin, comme un verset dans 2 Corinthiens nous dit, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Si vous lisez ce passage d'Exode 34, vous verrez qu'à la fin, Moïse a resplendi. Il avait le visage qui était illuminé, et il transpirait, en fait, de la vie de Dieu. Ce verset de 2 Corinthiens dit que la connaissance de la gloire de Dieu rayonne du visage de Jésus-Christ. Nous qui sommes aussi de ceux que Dieu a sauvés, nous rayonnons aussi de cette même lumière. Alors que le Seigneur nous accompagne dans notre marche et qu'il fasse briller aussi sa gloire dans chacune de nos vies. Amen.